nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Junier Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Je m'excuse de vous déranger, mais des personnes sont venues du service Opération M embarquer notre fille comme mutante. C'est tout à fait ridicule. Vous ne pouvez pas vous pas faire quelque chose. Ah. Bien. Au revoir, monsieur le ministre. Eh, il raccroche. Remets le téléphone en place. La porte s'est ouverte. Entre dans le bureau sa femme. Elle va vers lui.
Alors,
il n'y a rien à faire. Ni le ministre, ni personne ne peuvent intervenir. Ces hommes ont plein pouvoir. Pour amener qui leur semble, même le président de la République, on peut leur donner l'ordre. C'est un commando de service national. Il peut même embarquer le président de la République s'il le désire. Section spéciale, rien ne peut les arrêter. Sauf un décret voté par l'Assemblée des chambres peut dissoudre ce commando. Et comme les chambres ont été dissoutes, il faudrait les remettre en route. Notre fille attend de mourir plus de 1000 fois. C'est perdu. Ils sont effondrés, tous les deux. Les jours passent, les gens commencent à se lancer de ces enlèvements. Et puis tout le monde a peur pour lui ou les siens. Il y a de moins en moins de délations, il est vrai qu'il ne reste peu de gens à dénoncer. j'en commence à voir le commando avec hostilité et peur. Le vent change. Petit à petit, les commandos, le numéro vert, vont disparaître et on ne va plus en entendre parler. Disparaîtra avant que les gens ne s'attaquent à eux. Mais cela se fera tout doucement pour ne pas montrer que l'on a peur de la population. Mais on n'en est pas encore là. C'est encore la grande délation. Et les jours passent. Denis s'est remis de son accident. Les fractures, bleus, blessures, la perte de connaissance, tout ça c'est du passé. Il est sorti de l'hôpital et entré chez lui. Il est en convalescence. Physiquement, il ne reste rien de ses séquelles. Rien au visage ni au corps. Il est toujours aussi beau. Il a mal. En entrant chez lui, de voir la porte de l'appartement de Marie. Cela lui rappelle trop de souvenirs. Et même son appartement le rend malade. Il aimerait et n'aimerait pas déménager. Il aimerait déménager pour pouvoir vivre et ne plus avoir mal. Et en même temps, il ne veut pas, car il se dit qu'il ne verrait plus le décor où il l'a connu. Parce que tout ce qui l'entoure l'a fait revivre. Il est pris entre ces deux désirs. Souvent, la journée, il fait comme si elle devait sonner. Il attend, comme avant. Puis, il s'aperçoit que ce n'est pas possible qu'elle vienne. Alors, il se met à pleurer. Un jour, une idée lui vient. Celui qui l'a dénoncé doit payer. Oui, il faut faire justice. Qu'elle le dénonce, lui aussi. Non. Parce que je ne veux pas être un lâche. C'est facile de dénoncer et l'on ne risque rien. Non, là, je veux le faire proprement. Mais d'abord, il réfléchit pour savoir qui l'a dénoncé. Un matin, il va sonner à la porte de son médecin.
s'est ouverte. Ce secrétaire. Vous désirez, monsieur? Bonjour, je m'appelle Denis Dutour et j'aimerais voir le docteur. Elle lui demande. Vous avez rendez-vous, monsieur? Non, j'ai oublié, mais c'est urgent. Elle lui dit. Je vais voir, monsieur. Et elle s'éloigne. Puis revient. Monsieur veut bien vous recevoir. Entrez. Il entre. Elle ferme la porte. Elle le mène à la salle d'attente. Entrez. Il reste debout à faire les 100 pas. La porte est ouverte, c'est le médecin. Il va vers lui. Bonjour Denis, vous avez quelque chose à me demander? Oui, venez dans mon bureau. Denis suit le médecin. Asseyez-vous. Denis reste debout. Le médecin va s'asseoir. Je vous écoute. Denis lui dit. C'est vous qui avez dénoncé Marie?
Marie? Ah oui, bien sûr.
Pourquoi?
Parce que vous m'aviez dit que c'était une mutante et que c'était mon devoir de le faire.
Vous êtes un salaud. Une balle l'a touché dans le front. Le médecin s'effondre la tête la première sur son bureau. Denis jette à terre l'arme et sort du bureau. L'infirmière entre dans le bureau. Denis sort de l'appartement. Fois dehors, il suit la rue et s'engouffre dans une entrée de métro. Suit le couloir, correspondance, et attend sur le quai. Un métro arrive, les gens entrent dedans et s'apprêtent à repartir. Et juste où il va repartir, il se jette sur les rails. Le conducteur n'a rien vu. Thank you.
il est mort sur le coup. Les jours passent. Durant toute cette période, on a expliqué aux gens, à la télévision, à la radio, dans les journaux, ce que c'était que les mutants et les chimères. Dans les écoles aussi. Les enfants connaissent ces deux noms. Ils se traitent de mutants et font du chantage entre eux. Si tu ne me donnes pas 100 francs, je te dénonce. Viens dans les WC avec moi, sinon je fais le numéro vert. Si un élève a de bonnes notes, les autres disent que c'est un mutant, ce qui fait que les élèves ont peur d'avoir de bonnes notes. Ils font des chantages aussi aux parents. Si tu ne me donnes pas de l'argent, tu n'es qu'une chimère. Je vais te dénoncer. Dehors aussi, ils font chanter les adultes. Avant, ils disaient, je vous dénonce comme quoi vous êtes un PD si vous ne donnez pas de l'argent. Et que vous m'avez fait des propositions. Maintenant, ils disent, je te dénonce comme quoi tu es un mutant. Tu ne donnes pas de l'argent, etc. Les enfants savent profiter de la situation avec les adultes, car leur génération n'a aucun sens moral. Pour eux, le bien, le mal ne signifie rien. Pour eux, le bien, c'est ce qui leur apporte du plaisir et le mal, c'est ce qui leur apporte du non-plaisir ou de la contrainte. Donc, avec cette morale sans foi, ni loi, ni sentiment profond, la loi de la donation, c'est une bonne chose. C'est une chose formidable pour eux. Et ils savent merveilleusement bien s'en servir. Ils savent aussi, c'est qu'il faut dégainer plus vite que les autres pour ne pas être pris. Donc, dénoncer avant tout le monde. Où l'on fait le chantage de dénoncer. Jamais les enfants n'ont eu autant d'argent de poche et n'ont rien fait à l'école. Pour les adolescents aussi, c'est la même chose. Mais en plus du chantage,
ça marchait. Allez, ça marchait.
À l'argent, il y a la vengeance personnelle, sentimentale et politique. Celui qui n'a pas les mêmes idées que soi est un fasciste, donc à éliminer et par n'importe quel moyen pour le bien de la société.
Tu vois, c'est la planche juste à côté. Ça marche pas. C'est la planche juste à côté. Je veux pas de sang.
Les jours passent. Thank you. Un soir, Gilbert et Julien sortent d'une soirée chez un ami. La nuit est douce, décident de marcher un peu. Les rues sont presque désertes. Coup, ils voient dans la rue un jeune de taille moyenne, cheveux frisés, dans les 18 ans, habillé d'un jean et d'un t-shirt blanc. Il tape à coups de barre de fer sur les voitures en stationnement. Gilbert dit « Il est taré ce type !» Julien dit « Personne ne veut l'arrêter !» Gilbert dit « Je vais lui dire deux mots, moi !» Et ils vont vers lui. Ils accourent vers le jeune qui continue à cogner sur les voitures en cabossant la carrosserie et brisant les vitres. Arrivé vers lui, Gilbert dit « Arrête, espèce de con !» Le jeune, surpris qu'on lui parle comme ça, s'arrête et dit « Qu'est-ce que t'as, toi ? Qu'est-ce que t'as ? Elle est à toi, cette bagnole ?» Le jeune lui dit « Va te faire foutre, enculé, nique ta mère !» Et il s'apprête à donner un coup à la voiture. Julien lui arrête son geste et lui dit « Arrête, petit con, nous sommes deux et tu ne fais pas le mariole. » Le jeune hausse les épaules. D'un geste, il veut donner un coup à Julien. Et Julien tient bien la barre de fer. Le jeune la lâche et Julien la garde bien en main. Le jeune s'éloigne, mais avant de partir, se retourne et leur dit « Je m'en fous !» J'emmerde le monde. Je suis chômeur et je fais ce que je veux. Et il s'éloigne. Julien lâche sa barre de fer qui tombe à terre. Dit, quel con ! Julien lui dit, les cons ce sont eux, ceux qui les laissent faire. Et ils continuent leur chemin. Les rues sont redevenus calmes. Chez Julien, passer un moment. Ils entrent dans son allée. Et vont prendre l'ascenseur pour aller chez lui. Julien ouvre la porte sans sonner, pour pas réveiller la bonne. Entre, il entre, ferme la porte derrière lui, lui dit, allons dans ma chambre. Gilbert le suit. Ils font le moindre bruit possible. Julien lui dit, Maria n'aime pas être réveillée. La porte de ta chambre. Entre. Ferme la porte. Et ils vont s'asseoir sur le rebord du lit, comme ils en ont l'habitude. Elle lui demande. Et Nathalie, Gilbert lui dit. Rien, je la vois toujours, mais je me demande si elle est sincère. Et toi, Françoise ? Moi, c'est la même chose.
Nous n'avons pas de chance tous les deux avec les filles. Gilbert lui dit, peut-être sont-elles toutes pareilles, qu'elles jouent toutes le double jeu pour se protéger et s'imaginer qu'elles dirigent les sentiments. Julien lui dit, c'est vrai qu'il y a plus chez les femmes de menteuses et faiseuses d'histoires que chez les hommes. Ils soupirent tous deux. Julien lui dit, elles se jouent de nos naïvetés. Elles se croient fortes parce qu'elles s'imaginent que les hommes ne peuvent pas se passer d'elles, parce que sexuellement, nous en avons plus besoin. Enfin, c'est elles qu'ils pensent. Ils se taisent un moment. Puis Julien se met à dire, je repense à ce type complètement taré qui tabassait les voitures. Jean lui dit, il n'était pas du tout taré, il savait ce qu'il faisait. Il le faisait pour emmerder le monde et niquer les gens, comme il dit, pour leur prouver qu'ils sont des nuls et qu'il sait très bien qu'ils ont peur de lui. Il les dénigre, quoi. Julien lui dit, c'est pas parce qu'on est un corps social qu'il faut se croire tout permis. Et puis, la société ne doit pas tout leur permettre. Et un pauvre ne veut pas dire sain. Il y a aussi, comme dans toutes les catégories de la société, des bons et des méchants. Il dit, c'est comme ceux qui habitent dans ces HLM, qui se comportent, qui ne supportent pas les affiches des HLM, insultent les employés. Ils sont méchants, idiots. Ils insultent et attaquent ceux qui les aident à se loger et avoir un logement décent à un prix abordable. En plus, ils trouvent le loyer trop cher, aimeraient être moins payés ou ne rien payer, font la dégradation de la Corse chez eux ou dans les parties communes. Ils cassent et sont les premiers à protester que c'est cassé. Après avoir tout foutu en l'air, ils manifestent contre la dégradation. Et une fois qu'ils ont tout dégradé, ils trouvent intolérable qu'on les fasse vivre dans un endroit aussi dégradé. Mais lorsqu'ils sont arrivés, on leur a donné des appartements et immeubles neufs, bien entretenus. Ce sont eux qui ont fait la casse, les graffitis, etc. Ils sont les premiers à les manifester contre la dégradation et la violence. C'est comme pour les écoles, où ceux qui manifestent lorsqu'il y a un mort dans une cité, ceux qui manifestent contre la violence, ce sont eux qui la font. Dit, c'est pour éviter de recevoir des coups ou des sanctions. Tu casses et après tu manifestes contre la casse. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, La troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti.